J'ai reçu totalement ce qui
se passe.
Bienvenue à l'écoute de Parole aux auditeurs. Nous allons passer près d'une heure d'échange et de discussion sur les faits que vous vivez au quotidien. L'émission de ce mardi grâce ses projecteurs sur les accidents du transport maritime, sur le fleuve Congo et ses affluents, ainsi que sur les lacs. Les naufrages sont de plus en plus fréquents. L'année dernière, c'est plus de 2000 personnes qui sont mortes dans ces accidents, selon un responsable du service de la sécurité fluviale et maritime au ministère des Transports et des Communications. Au cours de cette année 2010, c'est les derniers cas en date enregistrés par la régie des voies fluviales remontent au 29 juillet et 6 septembre qui ont respectivement causé la mort de 140 personnes et de 24 autres. De nombreuses personnes sont restées portées disparues ainsi que d'énormes dégâts matériels. Pourtant, le réseau fluvial et la piste demeurent un moyen de communication incontournable en RDC. Et bien sûr, ce pays qui a une dimension d'un sous-continent avec son réseau de près de 25 000 km à l'état naturel, dont un peu plus de 16 000 km sont explorés et classifiés. La question pour lancer notre émission, à votre avis, que faut-il faire pour prévenir les accidents sur le réseau fluvial et la piste en RDC? Ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour vous exprimer, donner votre avis et vos propositions. Durant la magie, si ce bachisi, sous la supervision de Nicole Ngata, sont à la réalisation de cette émission.
Bonjour, auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
Comme je l'ai dit en introduction, les voies de communication fluviales sont d'une importance incontournable et elle relie les centres urbains, les centres commerciaux de consommation permettant un processus d'intégration politique, administrative et économique de la nation. Ce réseau fluvial et la crise permet un développement économique, le transport des personnes et des marchandises. Malheureusement, ce transport devient de plus en plus insécurisant, de plus en plus on enregistre des naufrages. Des enquêtes sont ouvertes par les services de sécurité, mais rarement les conclusions, si vraiment ces enquêtes sont menées, ces conclusions sont rarement même publiées. Et il faudrait dire que normalement, ces conclusions auraient pu permettre quand même de savoir quelles en sont les causes, pourquoi il y a autant de naufrages et aussi comment les éviter. Néanmoins, avec vous, nous allons échanger sur cette question, comment prévenir ces naufrages. Vous habitez tout le long du fleuve Congo, vous habitez près des lacs. Dites-nous, essayez de nous faire un témoignage. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui arrive, de toutes ces morts? Peut-être que ce seraient des morts évitables. Nous voulons votre témoignage et surtout composez le 081-890-6315, le 081-890-6315, ou vous pouvez nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Nous avons déjà M. Jean-Pierre Mungo, il est un ancien responsable de la régie des voies fluviales. Comme vous le savez, la régie des voies fluviales est chargée en fait de la sécurité. Elle est chargée aussi de pouvoir baliser le fleuve. Elle a plusieurs autres actions qu'elle est en train de mener sur le fleuve Congo. Nous allons échanger avec lui parce que c'est un ancien responsable de cette régie. Bonjour M. Jean-Pierre Mungo.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous comptons de plus en plus des cas de naufrage. Vous êtes un ancien responsable à la RVF. Quelle est votre réaction quand vous vous apprenez qu'il y a autant de cas de naufrage?
Bon, je pense que quand on voit un bateau couler, il faut placer en pourcentage le nombre de bateaux qui passent.
Mmh.
C'est grave quand on perd une personne, mais il faut voir combien d'embarcations passent sans accident.
Mmh.
Mais pour parler des voies navigables, ce sont des routes proprement dites et il faut une certaine connaissance dans la conduite de la part des gens qui naviguent. il faut une qualité d'embarcation, mais il faut également que les signaux sur les routes et la réglementation soient respectés.
Et autant de choses que doit normalement faire la régie des voies fluviales.
Ça, c'est la responsabilité de la régie des voies fluviales, normalement. Je dois dire que, d'abord, si vous permettez, les voies navigables au Congo sont d'une importance capitale. Parce que si on ne désenclave pas le Bandundu, les deux Kasaï et l'Équateur, l'économie n'était pas fonctionnée normalement. Et je vais vous donner un exemple que je viens de voir à la télévision, c'est quand le chef de l'État est allé inaugurer le pont de la Luang, qui relie le Bandundu et le Kasaï, et qui permettait à ce qu'on puisse partir de Kinshasa par route jusqu'au Katanga. C'est quelque chose de fantastique, extraordinaire. Mais à côté de ça, nous avons 15 000 km de voies navigables sur lesquelles un tiers n'a besoin que de signalisations et de connaissances par les hommes. Quand j'appelle connaissances par les hommes, ça signifie qu'il doit y avoir au sein de la régie des voies fluviales, et ça existait, les échelles d'étiage et les hommes qui savent les interpréter de façon à donner une indication aux navigants sur la hauteur des eaux et la possibilité de chargement en fonction de la hauteur des eaux. Ça peut déjà résoudre un certain nombre de problèmes. L'autre problème, c'est que il faut, en fonction de l'état des eaux, quand on est en basse eau ou en haute eau, en fonction des pluies, il faut qu'on puisse tracer la route de passage, mais en mettant des balises. Parce que la chance que nous avons, comme je disais tout à l'heure, parce qu'un tiers, on peut naviguer simplement en indiquant les eaux sans travailler sur le fleuve. Donc quand on quitte Kinshasa à Kisangani, on peut faire 1700 km sans avoir besoin de draguer. C'est seulement la signalisation et les indications par rapport à la hauteur des eaux.
Et il faudrait aussi ajouter que Madame la ministre de Transport et des voies de communication a dernièrement fait une visite d'inspection sur un tronçon du fleuve pour voir si les travaux de balisage étaient en train de s'effectuer. Effectivement, elle a constaté qu'il y a quand même des travaux qui sont en train d'être faits. Nous vous gardons en ligne, Monsieur Jean-Pierre Mouongo, le temps d'écouter nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes un ancien responsable de la régie des voies fluviales, cette régie qui comprend, qui est chargée en fait de la sécurité de navigation, de l'aménagement, ainsi que de l'entretien des voies de navigation intérieure.
Oui, je ne suis qu'un ancien, donc je ne sais pas très bien ce qui se passe aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Serge. Serge, bonjour. Serge nous a fait à partir de Bounia, où nos auditeurs nous suivent en FM sur 104.9. Nous allons revenir à Serge, la réalisation, essayer de pouvoir le recontacter, mais entre-temps, il y a Wesley de Kananga, qui est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour, Anna.
Oui, Wesley, on vous écoute, vous à Kananga, quand même le lac, plutôt le fleuve Congo passe du côté de Ilebo au Kasaï occidental, c'est un peu loin de Kananga, mais quand même vous avez une idée de ce qui se passe, surtout avec le dernier naufrage qu'il y a eu. À votre avis, que faudrait-il pour prévenir ces naufrages?
Oh, merci d'avoir pour l'opportunité que vous m'offrez sur votre chaîne. Je pense particulièrement que ce sont des vagues qui touchent tellement, qui font tellement du regret profond. Dans tout ce que nous pouvons faire, s'il n'y a pas un appui ou peut-être une aide, ça ne peut pas aller de l'avant. C'est un problème qui doit être pris entre les deux mains du gouvernement. Les dangers comme le bateau qui facilite le voyage, qui facilite peut-être certaines marchandises d'entrer dans des pays différents, doivent être contrôlés avant d'être lancés sur le rivière ou sur le lac. Mais là, on trouve qu'il n'y a pas une équipe qui a une technicité montée qui peut surveiller à tout prix pour éviter les naufrages, les catastrophes, les conséquences question de tout ça. Par exemple, le blanc que vous avez donné ici, 2000 personnes, 140 000 aux 140 personnes de Pluto. Vous voyez que nous avons perdu beaucoup d'âmes. Pourquoi est-ce que le gouvernement a un laissé aller, a de l'obligeance? Il ne veut pas s'engager dans des travaux pareils. Par exemple, nous qui sommes dans la région centre-ville, moi, par exemple, j'en ai pas une autre. Mais lorsque nous avons toujours des informations qui ont eu autant de morts, là, il y a eu des messages. Ça fait mal, ça blesse. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne s'en occupe pas. Les gens ne se sont pas, qu'est-ce que je dirais, les gens n'ont pas la bonne volonté d'entretenir le bien que nous avons qui facilite le travail de ce que le déplacement pratique, maman.
Donc, vous vous condamnez le fait que souvent il y a des surcharges, vous pensez qu'il n'y a pas des agents qui doivent nécessairement faire un effort pour que le tonnage soit respecté.
Voilà.
Et vous estimez que la surcharge est l'une des causes, en fait, de ces naufrages. Vous avez totalement raison.
Par exemple, si vous voulez prendre un voyage au bord de l'avion, on doit d'abord calculer le tunnel que vous avez. C'est pour justement voir est-ce que ça va convenir pour éviter les catastrophes par après. Par exemple, le problème de voyage maritime ici, on doit calculer maintenant, tout on doit calculer justement pour garantir la vie aux voyageurs.
Et
puis, on le fait. Si on ne fait pas, elle ne s'en est. C'est-à-dire, on a déjà d'abord les avantages, qu'on ait l'argent, qu'on ait le bien, qu'on soit riche. Tout ça, on ne fait pas raisonner pour garantir la vie aux voyageurs. Et par après, nous avons dépensé. Nous avons, peut-être installé dans le engin. Avec bien le bien. Et arrivé à un certain niveau, dans le naufrage. Les biens sont perdus, les âmes sont perdues, parce qu'on le sait à nous, maman.
Merci beaucoup, aussi, de Kananga, pour votre intervention. Vous décrivez cette surcharge qui est l'une des principales causes des drames sur les cours d'eau congolais. On a pu recontacter Serge de Bounière. Bonjour.
Oui,
Serge, on vous écoute pour vous. Que faut-il faire pour éviter ces naufrages?
Oui, c'est normalement important, mais vous comprenez avec l'Afrique aujourd'hui, les problèmes de nos femmes qu'on est de plus en plus une affaire assez inquiétante dans notre contrée. Et tout naturellement, c'est aussi dans bien des contrées, que ce soit à Kinshasa, mais aussi sur Bien, loin de nous, à environ 56 km de la Capitale. Nous connaissons aussi de nos femmes, surtout avec cette période où nous avons plus de tempêtes qui font en fait que des fois nous enregistrons aussi des morts d'hommes ou des naufrages sur le bord de la rivière ou du bord de l'arc. Je pense, à mon avis, qu'il faut qu'on arrive au moins à arrêter toutes ces situations, cette situation de l'appel qu'on est en train de connaître au niveau des noirs ou au niveau de nos fleuves. Il faut bien que les tenanciers, même de ces bacs ou même de ces bateaux, arrivent tout de même à connaître certaines études préalables pour qu'elles soient évitées de telles situations qui pourraient arriver tout à fait pour une sorte de mort d'homme qui ne cesse de connaître les situations dans la conflite. Mais aussi, il faudrait que le gouvernement puisse mettre en moi une équipe, si pas une gestionnaire, mais aussi une équipe qui pourrait aider à ces passifs, à aider à fournir ces initiatives au niveau de l'ordre de la personne qui plus souvent se battre ou se battre. Je pense que la responsabilité aide à chacun des membres qui aujourd'hui fait à ce que puisse mettre ses
familles
au niveau de ces bateaux.
La liaison est en train de se détériorer. Là, c'est un peu difficile de poursuivre, mais en gros, vous souhaitez qu'on puisse renforcer la formation du personnel navigant et aussi, vous pensez qu'il serait nécessaire de pouvoir, si on peut l'expliquer comme ça, essayer d'être à la pointe de la technologie pour mieux connaître quel sera le temps, avoir une idée sur la météo avant de naviguer, donc qu'on puisse être plus performant face à cela. Mais néanmoins, il y a quand même certains instruments au niveau de la voie, la régie des voies fluviales. Nous avons avec nous un ancien responsable de cette régie qui pourra vous donner plus d'explications concernant les matériels qu'on utilise pour pouvoir connaître la météo sur les lacs pendant cette période où vous voulez voyager. Merci Serge de Bougnat et bonne journée en province orientale. Nous avons Xavier de Kinshasa, bonjour.
Bonjour madame, c'est monsieur et Xavier.
Voilà. C'est un peu un nom qui sort de l'ordinaire, Xavier.
Xavier, c'est janvier.
Janvier, merci. Xavier, dites-nous, pourquoi tu fais pour prévenir les naufrages?
Voilà madame, vous savez, c'est quelque chose que moi personnellement j'ai vécu. Il y a un bateau qui a la capacité de prendre les barges d'au moins 2000 kilos. Bon, excusez-moi, 2000, je crois bien, ça doit être 2000 tonnes.
2000 tonnes.
Voilà. Mmh. Mais, chose grave, nous nous sommes rendus compte que ce bateau, avec ses barges, pouvait prendre au moins 2900 tonnes.
Mmh.
Ok. Est-ce que n'y a-t-il pas de responsable de la RVM chargé de pouvoir contrôler les tonnages que chaque pousseur de barge doit prendre? En dehors de ça, sur la voie fluviale, quand vous quittez le Kasaï pour pouvoir emprunter le fleuve Congo, la plupart des pousseurs de barge qui fréquentent cette tronçon utilisent souvent des éclaireurs. Est-ce que ces gens sont de la RVM? Ce sont des pauvres villageois qui se mettent à étudier la voie fluviale, et c'est pour eux une occasion de trouver de l'argent. Est-ce que le responsable de la RVM ne peut pas former leur propre personne pour pouvoir s'en charger de ça?
Mais quelles sont vos propositions pour éviter ces naufrages?
Et voilà, avant de donner ma proposition, je voudrais poser la question à notre invité. À son époque, qu'avait-il fait?
Il est en train de vous suivre, il va vous répondre incessamment. Vos propositions exagérées.
Ok, je voudrais dire ceci. Je sais que autrefois, bien l'ONATRA qui faisait ça. Et je pense que quand l'ONATRA était en train de se charger de ces trucs, les choses allaient très bien. On avait des signes et signalisations sur la voie fluviale, comme on peut les avoir dans les grandes artères de la ville, des signalisations lumineuses et des signalisations routières, quoi. Donc, je préfère que le ministre, donc qui est madame pour le moment, puisse vraiment prendre cette responsabilité et donner à chaque selon sa capacité, afin que quelque chose soit trouvé de bon, pour que nous évitions ces accidents. Voilà.
Merci beaucoup, Xavier. Vous êtes ici à Kinshasa.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiookapi.net.
Nous revenons à vous, monsieur Jean-Pierre Mungo, autant de questions, de préoccupations, même des propositions de nos auditeurs. Mais dites-nous, monsieur Mungo, quelles sont les limites de responsabilité entre l'ONATRA et la régie des voies fluviales?
Bon, il y a déjà, madame, j'ai bien suivi quelques propos. La responsabilité de navigation n'appartient pas nécessairement à la RVS. La RVS a une charge, mais n'est pas la seule. Quand on entre dans le port, ce port appartient à quelqu'un. Généralement, dans la partie ouest, ce port appartient à l'ONATRA.
Mm-hmm.
Et dans la partie est, où il y a les lacs, les ports sont propriété de la SNTC.
Mm-hmm.
Et là-dedans, il y a toujours un commissaire fluvial qui dépend du ministère des Transports, et qui, lui, peut autoriser ou ne pas autoriser un bateau à quitter en fonction de son état, en fonction de sa charge. La RVF a la responsabilité de donner la donnée sur la constabilité et la navigabilité. Et donc, il faut, pour éviter des accidents, que ces trois acteurs suivent bien toute la politique de la navigation. Parce qu'il y a un code de navigation à la République démocratique du Congo et il n'est pas suffisamment vulgarisé. J'espère que les gens qui m'écoutent peuvent aller chercher ces documents. Et là-dedans, on va voir les responsabilités de chacun. La RVF est obligé de faire la signalisation, de faire, de transmettre les données statistiques et les données actualisées sur le niveau des eaux, mais là où elle n'est pas, on a pu le, on a rempli le vide, et c'est pour ça qu'on voit des éclaireurs de village à village qui connaissent un peu l'état des rivières et des fleuves en fonction des saisons. Mais c'est ça la responsabilité de la RVS.
Mm-hmm.
Le commissaire fluvial, lui, il ne va peut-être pas faire sortir une embarcation qui est surchargée. Parce que là, lui, il voit les dangers. C'est lui qui donne l'autorisation de sortir ou d'entrer.
Mm-hmm.
Alors, tout ça nécessite qu'on puisse faire de la formation. Et la première formation qu'il faut faire, c'est d'abord les gens qui peuvent lire l'état des eaux. Sans être des spécialistes en hydrographie, mais ils ont une notion de savoir quelle hauteur a l'eau et transmettre la donnée au commissaire fluvial pour qu'il puisse savoir s'il peut autoriser une embarcation avec telle ou telle charge en fonction de la capacité de l'embarcation. Et on vient d'ouvrir ici une école pour les pays d'Afrique centrale à Kalamu, pour lequel je recommande beaucoup des responsables en province d'envoyer des gens pour pouvoir leur donner les rudiments ou les premiers éléments des jugements d'une voie navigable, parce que quand on est entre Ubundu et Kindu, ou quand on est sur les lacs, la chose n'est pas la même.
Mm-hmm.
Donc si on peut former ces gens, ça serait déjà une première tentative de résolution de ces problèmes. Après, on peut examiner les dossiers FS, mais on ne peut pas l'examiner sans impliquer les propriétaires des ports et les gens qui naviguent, qui sont tous les privés qui ont des bateaux, dans une sorte d'accord pour la respectabilité du code de navigation.
Monsieur Mongon, vous garde en ligne. Merci pour toutes ces précisions. Le temps d'écouter aussi d'autres auditeurs qui veulent s'exprimer. Nous avons aussi besoin des témoignages des personnes qui vivent long du fleuve Congo, qui vivent à côté des lacs comme le lac Kivu ou le lac Tanganyika. Vous pouvez vous exprimer, faire un témoignage, nous donner votre témoignage, ce qui permettra de pouvoir échanger et voir dans quelle mesure on peut éviter tous ces naufrages.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Joël.
Bonjour Madame Marie-Chantal.
De l'ICAC, on vous écoute. Quelles sont vos propositions?
Merci Madame. Madame, on ne cessera jamais de déplorer les catastrophes dans ces pays, aussi longtemps que certaines personnes ne prendront jamais conscience aux affaires dans les différents services. Les entreprises cherchent toujours à maximiser les recettes en mettant la vie des personnes en danger, car ils font travailler les appareils transportants en suivi, sans entretien ni même penser au renouvellement des différentes pièces de rechange. Ils oublient que ce sont des vies des grands responsables qui les mettent en danger, pour le simple fait de minimiser les dépenses lors des entretiens ou lors des achats des pièces de rechange, par exemple. Madame, les suivis, les services d'entretien, les services de contrôle sont quasi sans. Il faut que le ministère des Transports crée des services d'anticorruption, des services de contrôle dignes de ce nom et de payer correctement les personnels pour lutter contre la corruption de ces personnes. De les permettre aussi d'être à leur tâche dans ces différents services et que la loi contrôlée puisse aux propriétaires de ces appareils à s'assurer pour garantir les dommages qu'ils sont en train de causer aux innocents responsables.
Mm-hmm.
Pour ce fait, les victimes doivent être indemnisées.
Joël, là, apparemment, vous pensez que prendre conscience est seulement du côté des autorités, mais vous, Joël, vous êtes un client, vous voulez monter, voyager, et vous trouvez par exemple que le bateau est surchargé, et vous quand même, vous montez sur ce bateau, vous voulez voyager. Est-ce que là aussi, ce n'est pas de votre responsabilité si vous constatez que le bateau est surchargé, mais quand même, vous acceptez de voyager dans ces conditions-là?
Oui, madame, mais certainement, dès que nous étions peut-être dans une situation dès que nous sommes obligés de pagayer pour ne pas rater, par exemple, les marchandises qu'on a déjà envoyées, on sera toujours obligé de tendre ces.
Mais ce sera en bien mes consciences.
Exactement, la conscience à ce niveau est partagée, mais beaucoup plus la conscience repose sur les hommes qui sont les chargés de la RVM, qui eux doivent normalement faire des travaux d'entretien.
Parce que là, on a fait allusion plutôt au commissaire Pugin qui est chargé de pouvoir inspecter si le tonnage est respecté. Merci Joël de Lucasfilm qui a mis un accent sur l'entretien de toutes ces baleinières, de tous ces bateaux, ainsi de suite. Merci pour votre intervention à partir de Lucasfilm au Katanga. Bonjour Bena.
Bonjour madame.
Vous êtes ici à Kinshasa, on vous écoute. Que faut-il faire pour prévenir les naufrages?
Oui madame, ce qu'il faut faire, ça vient de l'expérience. Je venais de voyager, j'ai fait Kouilou avec la baleinière, la rivière Kouilou, la rivière Kassai, même le fleuve ici. C'est ce qui se passe. Il faut aussi fixer le comportement individuel du voyageur. Par exemple, si l'État n'a pas encore fixé les limites des heures de navigation. Moi, j'ai vu des gens avec des baleinières qui quittaient un village à un autre à 2 heures, madame. Même s'il y a toutes les précautions, même si le gouvernement a tout arrangé, est-il normal d'attenter à la vie des gens à 2 heures du matin pour naviguer? Vous avez quelle machine, vous avez quelle lumière pour voir l'état du fleuve? Bon, ça c'est un aspect. Mais le deuxième, moi je trouve que la cause d'abord c'est le manque d'un système de balisage adéquat. Alors, nous quand on a voyagé, on n'a pas ce système-là et on se fiait aux paysans. Le long du rive là-bas, il y a des villageois qui disent, voilà, moi je connais, je peux vous amener de tel village à tel village, vous payez autant. Avec autant de litres de carburant, l'argent, tout ça. Alors, lorsque vous n'avez pas ce moyen pour répondre à cette exigence, vous êtes obligé d'aller tout seul. L'équipage va tout seul là, sans expérience. Bon, ça c'est un aspect encore. Et je tiens aussi à vous informer que ce sont aussi les tracateries, les militaires de marins qui font voyager les gens la nuit. Parce qu'il y a des clients qui veulent échapper au contraire et consorts, ils voyagent la nuit et connaissent des accidents. D'ailleurs, le temps récent, à la rivière Kassai, il serait passé à 2h du matin. Donc, madame, s'il faut que je me résume, la première cause, c'est l'État doit effectuer un système de balisage adéquat afin de permettre aux navigants de passer et puis limiter, donner la limite des heures. On ne peut pas voyager la nuit. Pourquoi on voyage la nuit? Bébé, il faut encore que les responsables de recouvrement fluviaux soient sérieux. On est arrivé à Bandundu, il y a eu même le service de vétérinaire qui devait soutirer le pack. Il faut vérifier dans la baleinière, est-ce que vous avez un tabac ou à quel âge? Oui, toutes ces tracasseries peuvent concourir parce que le propriétaire de baleinière cherche à dévier et aller trouver un accident. Donc, le premier problème, c'est un système de balisage adéquat, comme je l'ai dit, pour éviter qu'on soit victime des exigences de nos amis paysans qui savent les bien navigables. Et puis que l'État, parce que je suis un responsable qui a parlé de Onatrao, RVF et puis
Ministère
de
Transport.
Ce n'est pas un problème de jeter les responsabilités, mais c'est un problème d'un État responsable, conscient. Ils savent se départager eux-mêmes leurs responsabilités pour sauver les vies des gens, les vies des Congolais. Et non, dit non, ça ne ressort pas de tel, non. Même s'il faut que tout s'organise, moi je tiens aussi à fixer le comportement de responsables, de baleinières, de bateaux et consorts. Donc s'ils prennent leur vie comme sacrée, ils vont éviter de voyager la nuit, ils vont éviter de ne pas prendre les tronçons qu'on ne connaît pas. Renseignez-vous auprès de villageois, de telle heure. Il n'y a même pas les gens qui s'intéressent au kilométrage, madame. Dans un village, on nous a dit, après 5 heures, vous allez arriver dans un autre village.
Mais curieusement, vous en faites 10 heures, peut-être 15. Merci beaucoup, Bena, pour votre intervention à partir de Kinshasa. Nous allons suivre Augustin de Kindou. Bonjour.
Bonjour, madame.
Oui, Augustin, on vous écoute.
Ok, merci de la parole. Juste quand nous sommes en train de parler de notre âge, sur le fleuve ou sur les lacs ou n'importe où dans notre pays. Moi, je pense que les causes de naufrage sont partagées ou multiples. Je commencerai par dire les responsables de voies fluviales sont les plus responsables. Étant donné que la RVF ne sait pas, du moins, jouer bien son rôle. Et comment est-ce que je serai monsieur, il n'a pas de moyens. Moi, je vais toujours parler dans toutes les émissions que vous m'inviterez de parler des moyens. Et nous devons oublier que dans ces pays, si tu veux que tu sois bien payé, il faut devenir politicien. Les gens qui travaillent dans des fleuves sur le gens de RVF, ils manquent de moyens, madame, pour bien assurer leur travail. Et vous allez voir, lorsque le bateau est plein, un client aussi doit voyager, par exemple, des Kindu vers Ubuntu. Il trouve le bateau qui est plein. Et il ne sait pas rater cette occasion. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit se mettre dans le même bateau. L'exemple est le plus frappant. Il n'y a pas longtemps, il y avait un message ici d'une pirogue qui a chaviré. Il y a eu plus de 150 morts. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des chaises, il y a des places là qu'on met pour les personnes. Mais les personnes ne sait pas faire le choix de rester de l'autre côté. Parce que le matin, c'est de la rive droite pour venir à la rive gauche par le pirogue ou par une pirogue. Et une fois la pirogue est remplie, il voit que s'il rate cette occasion, il peut traverser un écart. Il se met dans la pirogue, le client, pour arriver au milieu du fleuve, la pirogue peut chavirer. Combien de gens étaient morts, des personnes étaient mortes ce jour-là, madame. Donc, toutes les personnes sont responsables de ce naufrage, ainsi que aussi les gens qui travaillent dans le RVF, madame.
Merci beaucoup, Augustin. Vous intervenez à partir de Kindu. Vous soulignez qu'il serait nécessaire qu'on puisse accorder beaucoup de moyens, octroyer beaucoup de moyens à ces services pour pouvoir travailler correctement. Nous allons redonner la parole à notre invité parce qu'il a aussi beaucoup d'autres choses à faire. Nous le remercions déjà qu'il nous ait donné déjà plus de 30 minutes. C'est beaucoup. Monsieur Mwongo, dites-nous, vous avez encore suivi nos auditeurs. Il y a par exemple un auditeur qui pense qu'il faudrait contrôler l'entretien de toutes ces embarcations, les tracasseries multiples, les moyens financiers. Dites-nous, monsieur Mwongo, est-ce qu'il existe un service en fait en charge de contrôler l'entretien de toutes ces embarcations? À votre époque, est-ce que ça existait?
Oui. Je voulais d'abord dire que la crise globale qui a traversé notre pays a abîmé toutes les infrastructures de transport, y compris celles de la navigation.
Mm-hmm.
L'insuffisance d'embarcations de bonne qualité, qui dépendaient des chantiers navals qui les fabriquaient, sont aussi emportées par la crise. Et donc, si nous devons, je ne veux pas donner la responsabilité aux uns aux autres, mais ça doit être, on a inscrit les infrastructures comme priorité dans les cinq chantiers, et nous devons plutôt regarder de l'avant qu'est-ce qu'on va faire.
Mm-hmm.
Mais je voudrais dire ici que les responsabilités, aussi bien de l'exploitant, celui qui met sa baleinière à disposition des passagers et qui surcharge, doit, il a une responsabilité certaine, qui est contrôlable et maîtrisable. Par les services, parce que les services de transport sont bien outillés, ils ont plusieurs départements, les départements de contrôle, les départements qui donnent les autorisations d'entrée et de sortie, il y a les assurances que les gens doivent prendre, et tout ça est bien inscrit dans le code de navigation. Une des premières choses qu'on pourrait faire très rapidement, et qui est en train de se faire actuellement, c'est la formation d'abord des capitaines, les gens qui naviguent, les gens qui conduisent les bateaux.
Mm-hmm.
Ils doivent être formés. S'ils ne sont pas formés, c'est comme des chauffeurs que vous mettez sur la route et qui ne sont pas formés pour conduire et pour entretenir. Donc, ces gens doivent être formés. Les gens qui doivent regarder, donc les gens de la RVF, doivent recevoir une formation et distribuer sur tous les ports de façon à ce qu'ils puissent avertir au minimum en attendant que l'État puisse mettre des moyens pour pouvoir faire les balisages là où c'est nécessaire.
Mmh.
Alors, il y a donc les exploitants, il y a la RVF, mais il y a aussi le citoyen. Le citoyen qui, lui, va aller sur une baleinière où il y a déjà des surcharges, met sa vie en danger. Donc, quelque part, il y a une éducation à faire.
Mm-hmm.
Voilà, madame, comment est-ce que je peux dire parce que si on ne forme pas les gens, on va toujours crier sur l'État. Mm-hmm. Si on n'est pas conscient que quand on a une baleinière, ce n'est pas un bateau, ce n'est pas une grosse barque de 150, 300 tonnes, on ne peut pas prendre des gens, des animaux, de la marchandise et outrepasser la possibilité de charge.
Mm-hmm.
Et la responsabilité doit être renouvelée par la formation et des commissaires fiscaux et des gens de la RVS et des utilisateurs.
Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Mwongo, de nous avoir accordé de votre temps et aussi surtout de votre expertise en tant qu'ancien responsable au niveau de la régie des voies fluviales.
Appel aux auditeurs. Pour intervenir en direct sur Aurélien et Thomas, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radio-okapi.net.
Et nous continuons cette émission Parole aux auditeurs. Aujourd'hui, braque ses projecteurs sur les accidents du transport maritime sur le fleuve Congo et ses affluents, ainsi que sur les lacs. Les naufrages sont de plus en plus fréquents. L'année dernière, c'est plus de 2000 personnes qui sont mortes dans ces accidents, selon le responsable du service de la sécurité fluviale et maritime au ministère des Transports et de Communications. Au cours de cette année 2010, les derniers cas en date ont été enregistrés par la régie des voies fluviales remontent au 9 juillet et au 6 septembre. Et respectivement, ils ont causé la mort de 140 personnes et 24 autres, sans oublier de nombreuses personnes disparues, ainsi que des dégâts matériels considérables. Pourtant, le réseau fluvial et la Suisse demeurent un moyen de communication incontournable dans notre pays, un pays aux dimensions d'un sous-continent, avec son réseau de près de 25 000 km à l'état naturel, dont un peu plus de 7 000 km sont exploités et classifiés. La question pour cette émission, à votre avis, que faut-il faire pour prévenir les accidents sur le réseau fluvial et lacustre en RDC? Nous avons Louis-Serge qui est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour, maman Chantal.
Et vous êtes à Kikut, on vous écoute. Comment faire pour prévenir?
Les nombreux cas, les nombreuses causes de naufrage qu'on déplore ont pour cause manque de balisage. Ça, c'est tout le monde qui est d'accord avec nous sur les rivières et lacs. Et le personnel navigant n'est pas formé. Ce sont des personnels comme ça qu'on ramasse par-ci, par-là, un ancien de l'ONASA qui connaît tout simplement comment se naviguer et voilà, on le fait capitaine. Et en plus, il y a les surcharges des embarcations et les bateaux. Et ces embarcations et ces bateaux mal construits en dehors de toute norme exigée pour la construction des embarcations et du bateau.
Et qu'est-ce que vous proposez pour remédier à tout ça?
Je viens tout de suite. Voilà, les propositions, c'est réhabiliter et donner les moyens aux services de voies navigables, qu'on appelle hier Kaouka, pour la balisation, pour baliser les rivières, fleuves et nos lacs. Mmh. Bon, réhabiliter et la réhabilitation de Natra, donc en ce qui concerne les bateaux. Parce qu'à l'époque, il y avait les bateaux pour passagers, donc les bateaux courriers, et les bateaux pour transporter les marchandises. C'est ce qui n'est plus le cas pour le moment. Et en plus, il faut vraiment la formation du personnel navigant, les capitaines et tout ce que vous voulez, à l'école de navigation à Kaouka.
Mais quand vous parlez Kaouka, je pense que c'est compagnie des anciens officiers coloniaux en Afrique. C'est presque l'ancienne dénomination même de la régie qui est actuellement la régie des voies fluviales.
Exactement. C'est-à-dire que l'école de navigation, on l'appelait aussi l'école de Kaouka.
Et qui a repris d'ailleurs ses activités.
C'est une très bonne affaire. Alors, que tous ceux qui pilotent les embarcations passent par là. N'autoriser que la navigation, que des bateaux qui sont construits conformément aux normes internationales. C'est-à-dire sur les chantiers agréés par le gouvernement. Qu'on ne laisse pas n'importe qui fabriquer une embarcation ceci, et mettre en marche. Recenser et identifier toutes les embarcations avant de les laisser naviguer. Voilà, ce sont le peu de...
Oui, autant de propositions à tenir le secteur, la formation, mais aussi voir la qualité même des embarcations qui naviguent sur le fleuve. Merci, Louis-Serge.
Il y a des contrôles sur les rivières,
fleuve et lac.
Merci beaucoup, Louis-Serge de Kikut. Nous avons José Ducharte qui est au bout du fil, c'est un journaliste de la radio CAPI. Il est pour l'instant en train de faire son reportage, mais quand même, nous l'avons joint parce que lui, il a pu naviguer sur le fleuve Congo et il a une idée concrète de ce qui se passe sur le fleuve. Bonjour, José.
Bonjour Marie Chantal, bonjour à tous les auditeurs de Radio Cathy.
Mais vous étiez même sur la première embarcation, on se souvient à l'époque où le pays était encore divisé suite à la guerre qu'on a connue. Vous étiez sur la première embarcation qui a pu relier l'Est à l'Ouest. Dites-nous, José, au regard de cette expérience que vous avez pu avoir, quels sont les vrais problèmes du fleuve Congo, surtout de la navigation, pour éviter et prévenir les naufrages?
Oui, d'abord, Marie-Chantal, il faut dire que les vrais problèmes, ils sont assez nombreux. D'abord, que les auditeurs m'excusent pour ce bruit de fond, parce que je suis sur terrain.
Mm-hmm.
Donc, je disais, les vrais problèmes sont multiples. Les problèmes qui se posent à la navigation sur le fleuve Congo, sur nos lacs et sur les cours d'eau, sur les rivières, dans tout ce qu'il y a comme cours d'eau dans le pays, sont les mêmes problèmes qui se posent dans la navigation aérienne. D'abord, nous avons des embarcations qui ne répondent plus aux normes. On laisse naviguer comme ça sur le fleuve et sur les autres cours d'eau. Des embarcations qui ne répondent plus aux normes, c'est-à-dire sur le plan sécuritaire, c'est des vieilles embarcations et d'autres ne méritent même plus de naviguer. Non seulement on a des vieilles embarcations, on a aussi peut-être de nouvelles embarcations qui peuvent être neuves, mais qui ne répondent pas aux normes de navigation. Vous avez par exemple de baleinières, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ou qui ne se représentent pas la majestuosité du fleuve Congo. Le fleuve Congo est très vaste, c'est immense. Quand vous partez de Kinshasa, tout ce qu'on voit ici à Kinshasa, c'est pas ça l'image réelle du fleuve Congo. Il faut remonter vers l'Équateur, il faut remonter vers la province orientale. Il y a des endroits où le fleuve s'étend même en termes de largeur à plus de 5-6 km et où vous ne voyez pas l'eau ferise. Il y a ce problème des embarcations, qui ne répondent plus aux normes. Il y a aussi ce problème des services navigants qui ne font pas correctement leur travail. Parce que dans tout le coin où vous trouvez des commissariats fluviaux, des fois on laisse passer des navigations qui sont bondées de monde et dont le manifeste n'est pas en ordre. Et il suffit de payer un peu d'argent, on vous laisse continuer la navigation et les commissariats fluviaux ne font pas assez correctement leur travail. Donc, voilà un peu, en quelques mots résumés, les problèmes qui se posent à la navigation.
Et à votre avis,
il arrive, Marie-Chantal, qui est chavirement sur l'embarcation et que l'on ne soit même pas, c'est-à-dire que l'État ne soit même pas à mesure de déterminer combien de gens il y avait sur cette embarcation. Parce qu'il n'y a pas de manifeste, non seulement sur le fleuve, mais je vois aussi le problème qui se pose sur le lac Kivu, du côté de Goma, Bukavu, le même problème se pose sur le lac Tanganyika, sur le lac Kivu aussi, mais aussi sur la rivière Kasai.
Donc autant de problèmes que vous avez soulevés, à votre avis, quelles sont les mesures pour prévenir ce naufrage?
Bon, les mesures sont simples, tout se ramène à la responsabilité de l'État congolais. Parce que la première responsabilité est comme à l'État. C'est à l'État qu'il appartient ou qu'il revient la responsabilité de sécuriser les personnes et leurs biens. Quand l'État ne fait pas correctement son travail, quand l'État ne contrôle pas le caractère viable de flottilles qui sont sur le fleuve et sur nos cours d'eau, que voulez-vous? Chacun s'y lance comme dans une aventure. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font fortune dans ce secteur, dans le pays. Mais ils ne sont pas contrôlés par l'État. L'État ne peut pas dire qu'il n'a pas les moyens de le faire. Les moyens sont là. Mais il y a des services qui sont tout simplement corrompus et qui vous donnent même des autorisations de navigation sans même vérifier dans quel état se trouve votre embarcation.
Merci beaucoup, José, pour votre intervention, mais aussi la sanction. Il faudrait une sanction, lutter contre l'impunité. Peut-être là, ça pourra décourager et aussi réduire vraiment la corruption. Je rappelle, José, que vous êtes journaliste à la Radio CAPI et vous avez fait partie de ce premier voyage sur le fleuve Congo qui a pu relier l'Est à l'Ouest du pays sur le fleuve Congo. Je vous remercie encore une fois. Il y a Rolly Carola plutôt Malako qui nous a écrit à partir de Kananga. Il écrit ceci, j'estime que les cas de naufrage dans notre pays deviennent un problème de santé publique. Notons que sur la rivière Kasaï dans la province du Cap Occidental où je vis actuellement, la population de Chikapa est dans le désespoir chaque fois qu'elle se présente à des différents ports pour le voyage. Un problème est vrai que la cause de l'accident soit la défaillance des services publics de transport maritime qui sont incapables de contrôler les baleinières qui circulent sur cette rivière avec tout en étant surchargées, qui des fois sont manifestes de bord, pouvant déterminer le nombre des passagers, ce qui fait qu'en cas d'accident, l'État n'est pas à mesure d'identifier le nombre des morts et des rescapés. Cela rejoint les déclarations aussi, le constat, ça fait José Deschartes au cours de son voyage. Il y a aussi Audrey qui écrit, dit, je pense que la première cause des voyages, c'est le non-respect de la capacité des bateaux. Nous trouvons des bateaux qui ont la capacité de transporter 100 personnes, mais on y trouve 5 ou 10 fois plus de personnes. Ici à Bukavu, les services en charge de la navigation ne s'occupent que des taxes qu'ils vérifient et non le manifeste des passagers. Merci beaucoup pour nous avoir écrit sur à travers ca@radiocapi.net.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de vos activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions font l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, lors de son Kata, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient de lundi à vendredi de 11 à 12h et mercredi de 10h.
Et nous revenons dans ce studio grâce à Willem Lungamba qui est à la technique. Nous avons Franck de Baraka au bout du fil ainsi que Didier. Le bouillon commence par Franck. Bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Et vos propositions pour éviter, prévenir les naufrages.
Madame, je vous assure que le problème des naufrages c'est un problème sérieux ici à Baraka.
Mm-hmm.
Parce que vous savez que Baraka est sur la côte du lac Tanganyika. Bon, ici, il n'y a pas des embarcations qui respectent les normes. Quiconque peut fabriquer son embarcation et la mettre dans la circulation sans aucune référence sur les tonnages. Donc, c'est question seulement qu'il se rend compte que ça fait pas une capacité de soi-même, qui lui-même détermine. Il n'y a même pas un service qui intervient pour déterminer les tonnages. Et donc, quiconque veut, fait ce qu'il veut. Il n'y a pas une régulation dans le service-là.
Mmh. C'est ce que vous avez constaté, mais néanmoins, les services de l'État existent. Peut-être que vous n'avez pas essayé de voir au niveau des ports si ils sont actifs, mais essayez quand même de vous y rendre. Peut-être poser des petites questions, parce que dire qu'il n'y a aucun service, c'était un peu trop fort, sans oublier bien sûr que, disons, la pêche, c'est l'une des activités que nous connaissons depuis nos arrière-grands-pères, donc il doit nécessairement exister certains pêcheurs qui essaient de vivre au jour le jour, mais dire qu'il n'y a aucun service, il faut lui transmettre au port pour constater cela.
Vous savez, madame, les services existent, mais ils sont là pour les chiffres seulement. Mais, quant à ce qui est de la prévention des passagers, je vous dis que rien n'est sur terrain, rien n'est fait. Quand de même, il y a une chasse de balisage sur tous les lacs Tanganyika, pas de balisage.
Merci beaucoup, Franck, pour votre intervention à partir de Baraka. Bonjour, Didier.
Bonjour Marie-Chantal, bonjour à tous les invités de la radio Capi.
De Bounia, quelles sont vos propositions?
En tout cas, en ce qui concerne les naufrages, prenons le cas de chez nous ici à Nitouri, précisément dans le lac Albert. Vous verrez par exemple une pirogue qui vous vient de l'Uganda, qui a bel et bien transporté 28 tonnes de marchandises. Et sur les 28 tonnes, il y a plusieurs passagers. Alors que sur ce, les autorités ne sont pas à mesure de sanctionner les propriétaires de ces pirogues, par exemple. Justement, le service de l'État existe ou ça n'existe pas ici. Alors que vous verrez que les chefs qui sont là sont des intouchables. Ils sont, même si c'est le manifeste, il a bel et bien vu qu'on a écrit 5 personnes, mais ça dépasse, ça devient 20, 25, pour qu'ils aient de l'argent. Ça s'approche pour s'enrichir des femmes et les autres cours, c'est ce que je dirais.
Donc vous proposez que plus de rigueur hein, concernant le contrôle de ces embarcations. Merci Didier de Bounia pour votre intervention. Nous restons dans la province orientale où se trouve Kani de Tsangani. Bonjour.
Bonjour.
Kani, on vous écoute. Quelles sont vos propositions pour prévenir ces naufrages?
Moi, ce qui me concerne, je souhaiterais que Kani d'abord une bonne réglementation. Et puis, qu'on crée aussi les guichets uniques, parce que voilà l'embarcation, il y a plusieurs services, là-bas, vous trouvez la DGM, la NER, tout ce que vous voulez. Alors, tout ça, ça pousse aux armateurs d'augmenter la charge de l'air baleinière, tout ça. Alors, et puis, en plus de ça, il faut aussi que la ligne de flottaison soit respectée. Parce que quand il y a ce charge, il y a déjà, donc, les passagers, alors, je souhaiterais que les agents de transport, communication aient aussi une bonne motivation. Parce qu'à partir du moment où ils sont mal payés, donc ils sont compétitifs à souhait. Je souhaiterais, j'insiste encore, il faut qu'il y ait un guichet unique. Donc, on se dit pour soi et puis il se passe avec ça.
Merci, Camille de Kitsangani. Une petite précision pour dire qu'au niveau du ministère de transport et de communication, dernièrement, Madame la ministre a pu organiser une randonnée d'inspection pendant 7 heures pour se rendre compte de l'état des balises sur le pool Malebo, partant du port de la régie des voies fluviales à Ndolo jusqu'au port de la Siporco à Maluku. Tout au long du parcours, eh bien, ils ont constaté qu'effectivement il y avait du travail qui était en train d'être fait, mais c'est sur un petit tronçon. Le fleuve Congo est assez long, assez large, peut-être qu'il y a des problèmes. De pouvoir baliser l'ensemble des cours d'eau qui sont navigables, mais ce serait en tout cas une bonne chose si le ministère arrivait à pouvoir baliser, parce que c'est ça même l'une des préoccupations qui est revenue plusieurs fois de nos auditeurs, qu'on puisse baliser le fleuve Congo ainsi que les affluents, sans oublier aussi les lacs. Nous allons écouter d'autres auditeurs qui veulent intervenir. N'oubliez pas le numéro magique qui se parle aux auditeurs. 081-890-6315, 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Il nous reste 6 minutes qui nous séparent de la fin de cette émission. Cette émission Parole aux auditeurs qui était consacrée essentiellement aux accidents maritimes sur le fleuve Congo, ses affluents, sans oublier sur les lacs. Il faut dire que l'année dernière, il y a eu plus de 2000 personnes qui sont mortes dans ces naufrages, selon un responsable bien sûr du système du service plutôt de la sécurité fluviale et maritime du ministère des Transports et des Communications. Au cours de cette année 2010, les deux derniers cas en date enregistrés par la régie des voies fluviales remontent au 29 juillet et au 6 septembre. Il y a eu plusieurs morts, plus de 140 personnes qui sont mortes. Et aussi dans le second accident, c'était plus de 24 personnes mortes, sans oublier qu'il y a eu de nombreuses personnes disparues, ainsi que d'énormes dégâts matériels. Pourtant, le réseau fluvial et la fibre demeurent un moyen de communication incontournable en RDC, avec son réseau de près de 25 000 km à l'état naturel, dont de près de 16 000 km sont explorés et classifiés. Cette émission, nous avons une question centrale à votre avis. Que faut-il faire pour prévenir ces accidents sur le réseau fluvial et lacustre en RDC? Il y a plusieurs auditeurs qui ont donné leur avis, notamment baliser, le contrôle, la formation. Nous avons Gaylor qui est au bout du fil. Il voudrait intervenir, son sujet presque à la fin. Peut-être en une minute, il pourra donner son avis. Malheureusement, la réalisation Cynthia Bachizi me fait signe que nous l'avons perdue. Nous allons essayer de pouvoir le recontacter. Et puis, il faudrait dire que le réseau des voies navigables est d'une longueur de près de 16 000 km et qui est subdivisé en trois biefs. Il y a le bief maritime long de 150 km de Banana à Matadi, il y a le bief moyen comprenant le fleuve Congo, Kinshasa, Kisangani, la rivière Kasaï et le Rafiant, qui totalisent eux presque 13 450 km, sans oublier le Bièvre supérieur, comprenant le Lualaba et les lacs qui totalisent près de 2630 km. Et le réseau fluvial en RDC à l'origine est vraiment incomplet pour des raisons historiques ou géographiques. Et ça s'est vu détériorer au cours de toutes ces années. Donc, cela par manque d'entretien ou même le vol des infrastructures et tout cela a favorisé qu'il puisse y avoir autant d'accidents sur le fleuve Congo et même sur le lac. Nous avons Audrey Irénier. Il nous a écrit à partir de Bukavu. Il écrit ceci: je pense qu'il faudrait interdire la navigation des pirogues et des petites embarcations la nuit dans le lac, sur le lac Kivu. Voilà autant de préoccupations d'Audrey de Bukavu.
Parole aux auditeurs.
Et nous cheminons ainsi petit à petit vers la fin de cette émission Parole aux auditeurs qui était consacrée au naufrage sur le fleuve Congo et ses affluents, sans oublier sur les lacs. Cette émission a connu vraiment la participation de plusieurs auditeurs qui sont intervenus et qui ont donné leur point de vue et surtout des propositions en vue carrément de pouvoir prévenir ces cas d'accident, mais aussi tout juste vers la fin de cette émission, nous connaissons des problèmes de communication, le téléphone ne marche pas, le réseau ne marche pas vraiment, les dieux de la technique ne sont pas avec nous, heureusement William est là pour nous balancer de temps en temps quelques entractes, mais nous arrivons déjà presque à la fin de cette émission. Nous disons merci à tous les auditeurs qui sont intervenus et surtout vous qui nous suivez sur www.radiocapi.net. Vous êtes en RDC ou partout dans le monde. Nous vous remercions pour votre fidélité, mais aussi merci aux auditeurs qui ont pu intervenir. Sans oublier M. Jean-Pierre Mongo, un ancien responsable de la régie des voies fluviales qui a participé à cette émission.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Et notre prochain rendez-vous avec Parole aux auditeurs est pris pour demain. Nous allons faire un état des lieux de la livraison des passeports biométriques depuis l'ouverture des centres de capture dans tous les chefs-lieux des provinces de la RDC. Quelles difficultés rencontrez-vous? Surtout, comment faire pour relever ces difficultés? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Merci à Pierre Lamégi, à Nicole Ngaka, à Cynthia Bassuzi, qui ont été à la réalisation de cette émission. Marie-Chantal Lumba était à la présentation. C'est en compagnie de Radio Capi.